Raphaël Simon, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur d'un livre dont nous allons parler au cours de cette émission, Couple de feu et de foi, aux éditions de l'Emmanuel. Mais avant donc de parler de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui, voilà, je suis Raphaël Simon, je suis mariée, j'ai trois enfants. Je suis journaliste depuis plus de 20 ans, j'ai travaillé dans différentes rédactions et depuis 7 ans à peu près, je suis journaliste indépendante et je me suis un peu spécialisée au cours de ma vie sur les sujets famille, société et spiritualité.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au couple en tant que chemin de sainteté?
Alors, en fait, au début, je m'étais plutôt intéressée je cherchais des modèles, en fait, des modèles féminins, des modèles de sainte mère de famille, et je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu. Pourquoi est-ce que l'Église a peu canonisé des mères de famille? En tout cas, celles qui étaient canonisées étaient souvent veuves, religieuses, et je me suis dit, tout le monde, tous les baptisés sont appelés à la sainteté, et il est dommage que l'Église ne canonise pas plus de femmes mariées. Et en fait, depuis Jean-Paul II, on se rend compte que toute son attention a été portée justement sur des couples ordinaires, on pourrait dire, et qui ont vécu vraiment l'amour dans le mariage et le mariage comme chemin de sainteté. Et puis, dans ma vie, j'ai été aussi très frappée par la lecture d'un ouvrage de Jean Sévillia sur l'impératrice Zita, et puis aussi sur l'apparition des notes spirituelles du roi Baudouin. Et je me disais, eh bien voilà des exemples de, alors peut-être pas encore aujourd'hui canonisés, mais des exemples de gens à la vie édifiante dans le mariage. Et donc c'est ça qui m'a. Et puis l'apparition la récente en fait de la correspondance des époux aux ânames, notamment, m'a incité à me pencher davantage sur le sujet de ces couples, sinon sains, du moins édifiants.
Alors, comment les avez-vous choisis, ces sept couples?
Alors, en fait, plus je me penche sur le sujet, plus je me rends compte qu'il y en aurait d'autres, hein. Il a bien fallu choisir. En fait, je me suis attachée à ces sept couples parce qu'ils se suivent dans le temps sur presque 200 ans, hein. Frédéric Ozanam naît en 1813 et Chiara Petrillo, le dernier couple, meurt en 2012. Son mari est toujours en vie. Et donc, ces sept couples se suivent et ils nous donnent presque comme une fresque, une catéchèse du mariage sur le long terme, on va dire. Et en même temps, ils se ressemblent. Enfin, évidemment des divergences liées aux époques, mais aussi des points de convergence. Alors voilà, je les ai choisis eh bien parce que d'abord, j'avais des sources, suffisamment de sources publiques pour pouvoir parler d'eux. Et puis, je les ai trouvés très attachants. Plus je travaillais sur leur couple, plus j'étais passionnée par leur vie. Voilà, j'ai choisi cette fête-là, mais il y aurait pu y en avoir d'autres. Hein. Je pense notamment aux époux Martin qui ont été canonisés. Mais comme il y avait déjà eu beaucoup de choses sur eux en tant que couple, je me suis dit que c'était plus intéressant d'avoir ces portraits où il y a eu peut-être un petit peu moins d'écrits. Voilà.
Mais c'est vrai que les époux Martin ayant une fille très connue,
Oui.
on les connaît effectivement davantage. Donc nous vous écoutons donc pour nous parler de cet ouvrage et vous allez notamment nous dire ce qui vous a motivé plus spécialement à partager ce que vous avez découvert sur ces couples.
Voilà, alors je me suis rendu compte que aussi le mariage était un peu présenté dans l'Église parfois comme une sous-vocation. En fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie voie de sainteté, que la sainteté n'était pas réservée aux religieux et aux prêtres, et qu'on est saint dans le mariage en finalement l'un avec l'autre et l'un par l'autre. Hein, on n'est pas saint tout seul dans le mariage. Et ces couples m'ont montré, comme je disais tout à l'heure, comme une catéchèse vivante du mariage qui n'est pas doctrinale, mais qui est incarnée, inscrite dans la chair. Même si on peut retrouver des points de doctrine tout au long de leur vie, évidemment. Alors, ce qui m'a frappé notamment, c'est qu'ils ont vécu leur mariage en chrétien. On sait que le mariage chrétien repose sur quatre piliers, la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. C'est un petit peu des gros mots quand on en parle comme ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'eux l'ont vécu de façon très concrète. Si je prends le premier point, la liberté, on parle bien sûr de la liberté de consentement. Eh bien, par exemple, Frédéric Ozanam, on voit qu'un certain nombre de couples, peut-être que je pourrais déjà présenter en quelques secondes les couples dont je parle pour que tout le monde soit bien au courant. Donc, il y a Amélie et Frédéric Ozanam, hein, les premiers, ces couples lyonnais puis parisiens. Voilà, Frédéric est très connu pour la conférence de Saint-Vincent de Paul, mais on découvrira sa femme très attachée à lui et qui l'a beaucoup aidé dans sa vie. Le couple Elisabeth et Félix Loeser, un couple de la belle époque, elle est très chrétienne, elle va perdre sa foi par les mondanités, son mari est agnostique, et puis elle va prier toute sa vie pour que son mari retrouve la foi, c'est ce qui arrivera après sa mort. La bienheureuse Maria et Luigi Beltram Quattrochid, un couple italien, j'allais dire assez sans histoire, mais justement un couple ordinaire, très attachant aussi. L'impératrice Zita et le bienheureux Charles d'Autriche, donc un destin tout à fait hors du commun pour ce couple, mais un amour là aussi vécu dans l'intimité de façon très, j'allais dire, très simple. Jeanne et Pierre Molla. Jeanne Beretta Molla est connue pour avoir donné sa vie pour que sa fille puisse naître. On verra aussi que c'est un couple très très solide, très attaché et attachant. Fabiola et Baudouin de Belgique. Eh bien, on connaît mieux ce couple qui est presque contemporain. Et puis Chiara et Enrico Petrillo, très jeunes. Donc elle va mourir à l'âge de 28 ans en ne voulant pas porter atteinte à l'enfant qu'elle porte alors qu'elle-même est atteinte d'un cancer. Un couple là aussi très attachant. Je reviens sur cette liberté de consentement. Donc Frédéric Ozanam, par exemple, est assez réticent sur l'idée de se marier. Il trouve que le mariage est un égoïsme à deux. Sa future femme, Amélie, a même aussi, de son côté, créé la sainte alliance de celles qui veulent rester filles. Vous voyez, ils ne sont pas très, très portés sur le mariage. Ils ont une vision du mariage qui est soit très romantique, soit idéaliste, enfin qui est idéalisée ou alors un peu méprisante. Et donc, ils ne sont pas forcément très portés là-dessus. Et en fait, la rencontre de Frédéric et d'Amélie va changer les choses. Et Frédéric va passer véritablement de cette considération un peu méprisante du mariage à un mariage d'alliance magnifique. Jeanne Beretta Molla, par exemple, voulait être missionnaire. Le roi Baudouin voulait entrer à la trappe. Donc, vous voyez que le mariage n'était pas forcément un acquis pour eux, mais ils ont librement répondu à un appel grâce à cette grâce providentielle de la rencontre. Et les Petrillo, Chiara et Enrico, ce dernier jeune couple, par exemple, ont vécu des fiançailles longues, difficiles, 7 ans de fiançailles. Ils avaient peur de s'engager, ils avaient peur de se montrer en vérité l'un envers l'autre. Eh bien, ils ont finalement répondu à cet appel et Enrico dira à la fin, eh bien, l'amour ne nous a pas déçus, il nous a surpris. Voilà. L'autre, finalement, est reçu comme un don de Dieu. Hein. Ça, c'est quelque chose qui me frappe chez tous ces couples, c'est qu'ils ne cessent de remercier pour le don de l'autre. Et ils savent que c'est un don de Dieu et c'est un don qui se reçoit. Je pense à, par exemple, ce que dit le roi Baudouin, je vous cite, « Pourquoi, Seigneur, as-tu bougé le ciel et la terre pour me donner cette perle précieuse qu'est ma Fabiola ?» Elle a une manière d'être avec les gens qui est idéale. Elle est tellement attentive, tellement tout aux autres que je comprends qu'on l'adore. Seigneur, merci. Et puis, voilà, il reprend « Remplis, Fabiola, de ta santé, etc. » Vous voyez ? Donc, vraiment, l'autre est reçu comme un don de Dieu. Il y a eu parfois des résistances. Hein. Par exemple, la reine Fabiola, justement, se sentait indigne. Quand on lui a présenté le roi Baudouin, elle se sentait indigne de lui. Elle savait qu'elle avait 2 ans de plus que lui. Mais vous voyez, au-delà des cadres, ils ont accepté de se laisser conduire. Je pense aussi à Pietro Molla, qui s'est marié lui à 42 ans. Hein. À 42 ans, on a déjà un peu fait sa vie. Et c'était pour lui un arrachement de quitter sa vie de célibataire et notamment son travail. Il travaillait énormément, il était responsable d'une usine et il travaillait énormément. Et sa femme lui dit un jour, mais c'est pas juste pour moi, il faudrait vraiment que tu prennes du temps aussi pour qu'on ait des loisirs tous les deux. Et il accepte, il comprend pas tout à fait ce qu'elle lui demande. Et puis il accepte et en fait il se rend compte que que c'était ça qui était bon pour lui. Voilà, cette liberté de consentement, donc, et puis liberté d'être soi-même et de rendre l'autre libre. Pour ça, il faut accepter de se dire et se connaître en vérité avec l'autre. Je suis frappée dans ce domaine par l'importance qu'a pris la correspondance chez tous ces couples, notamment dès les fiançailles. On dit que Frédéric et Amélie Ozana, notamment, ont vécu des fiançailles de papier. Hein, ils se sont connus vraiment grâce à cet échange de lettres, car ils se sont vus que très peu pendant toute cette période de fiançailles qui a duré presque un an. Mais ils ont accepté de se dire en vérité. Et c'est d'ailleurs très touchant. Amélie demande à Frédéric, elle lui dit « Mais dites-moi tout, vous m'avez pas dit vos... » Elle le voit au début. Hein. « Vous m'avez pas dit tous vos soucis, je veux vraiment tout connaître de votre vie, vous partagez vos joies, vos peines. » Voilà, donc c'est très, très touchant. Et puis Chiara Petrillo, je pense à elle aussi, dès lors qu'elle a besoin de s'épancher ou dès lors qu'il s'agit d'une décision ou d'un événement important, elle va le mettre par écrit. Ça n'empêchera pas le dialogue avec évidemment Enrico, mais elle a besoin aussi de pouvoir mettre voilà, par écrit. Et je trouve que c'est notre génération a un petit peu perdu cette notion de la correspondance. Et je trouve que il y a peut-être quelque chose là à retrouver. Dernière chose sur cette notion de liberté, c'est aussi la liberté, c'est aussi vouloir le bien de l'autre pour qu'il s'épanouisse et qu'il soit lui-même. Frédéric Ozana prévoit que sa femme ait du temps pour elle. On pourrait croire qu'elle est très effacée, qu'elle fait beaucoup de choses pour lui, ce qui est vrai. Mais lui aussi a le souci qu'elle puisse développer son esprit, avoir du temps pour elle. Il lui offre un piano, il sait qu'elle a besoin de jouer du piano. Je pense aussi à Pietro Mola, qui voyage pour son travail, qui est obligé de prendre l'avion, et ça terrorise sa femme. Et donc, il va renoncer à prendre l'avion parce qu'à chaque fois, sa femme est terrorisée. Voilà. Des petits mots, des petits gestes concrets de la vie courante pour montrer que vouloir le bien de l'autre, c'est aussi, ça s'incarne aussi dans le concret de la vie courante.
Alors juste, on pourrait se demander ce que Frédéric Ozana penserait aujourd'hui en voyant la vie des gens en général, hommes ou femmes, s'il voulait accorder un petit peu de temps pour que sa femme ait du temps pour elle, que dirait-il aujourd'hui?
Oui, absolument. Je me dis ça c'est vraiment quelque chose de très moderne parce que nous on est dans des vies très, comment dire, très très où tout va très vite, etc., mais où on fait pas forcément, on prend pas forcément suffisamment de temps d'attention à l'autre. Et je trouve que, voilà, il faudrait bien sûr adapter ce qu'il fait hier, mais il n'est peut-être plus tout à fait valable aujourd'hui, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'attention qu'il porte à sa femme et au fait qu'elle puisse s'épanouir aussi elle-même. Hein. Voilà. Ça, c'est en fait, et ce qui m'a frappé aussi chez ces couples, c'est d'ailleurs il y a un moment où il en parle textuellement. Il parle d'obéissance réciproque. Je crois que c'est pour les Beltrame Quattrochi. Hein. Parce que voilà, on se met au service de l'autre, mais réciproquement. Deuxième grand pilier du mariage, c'est l'indissolubilité. Les époux se donnent les moyens d'exprimer leur amour à l'autre et de durer dans le temps, j'allais dire, en dépit des obstacles. Et on sait aujourd'hui que voilà, le mariage peut durer très longtemps puisque l'espérance de vie est plus grande. Et donc cet amour a besoin d'être nourri, incarné. Je reviens encore aux époux Ozanam. Je suis très frappée de voir que Frédéric Ozanam, si vous me permettez cet anachronisme, a utilisé les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Vous savez, les paroles valorisantes, les services rendus, le toucher physique, les temps de qualité, les cadeaux. Je prends juste un exemple pour ne pas être trop long, mais il offre des fleurs à sa femme tous les 23 du mois, car le 23 du mois correspond à leur anniversaire de mariage. Et il le fait aussi pour montrer aux autres qu'il y a quelque chose en eux qui ne flétrit pas. Et ça, je trouve ça très beau parce que il y a aussi un témoignage rendu au-delà de leur propre couple. C'est pas juste toi et moi, c'est aussi pour les autres. Et Frédéric dit aussi du bien de sa femme en public. Et Amélie en rougit et elle dit « J'en avais surtout une grande honte devant les femmes que je savais ne pas être heureuse. » Donc voilà, je trouve très beau le fait qu'il utilise ces langages de l'amour. Je pense aussi au Beltrán Cuatruqui, donc c'est très c'est dans la vie de tous les jours, hein, c'est absolument absolument courant. J'allais dire, je vous cite simplement ce qu'en dit aussi Maria. Lui allait à son travail, moi à mes occupations, mais chacun de nous portait en lui sans interruption la présence de l'autre. Il se retrouve ensuite à l'heure du déjeuner. C'est avec joie que je l'attendais et que je l'entendais glisser sa clé dans la porte d'entrée de la maison. Chaque jour, chaque fois, j'en bénissais le Seigneur de toute mon âme. Voilà, donc c'est vraiment cette présence à l'autre. Et puis, autre point, je dirais, c'est accepter de dire ses faiblesses, accepter d'être transparent à l'autre pour pouvoir être aimé et aimer soi-même. Ils sont inséparables, ça c'est aussi une caractéristique de tous ces couples. Frédéric dit à Amélie dès le début, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Hein, il lui dit, et désormais nous dirons nous. Hein, et de fait, dans ses lettres, il dira souvent, ma femme et moi, nous pensons que, etc. Chez Charles et Zita, moi j'étais très frappée aussi. Donc là, je remets dans le contexte. Donc, ils ont été chassés de leur pays, ils sont exilés en Suisse. L'empereur Charles tente une restauration, une première restauration, elle échoue. Il va tenter une deuxième restauration. Et là, l'impératrice Zita souhaite absolument l'accompagner. On l'en dissuade, évidemment. Elle vient d'avoir son 7e enfant. Et elle dit non, mon devoir d'épouse l'emporte sur mon devoir de mère. Et elle va, elle sent que l'empereur a besoin de sa femme à ses côtés. Et donc, elle va l'accompagner dans cette aventure tout à fait périlleuse, d'ailleurs, qui va échouer, puisqu'ils vont... ils vont devoir s'exiler à Madère. Voilà, et l'autre sera aussi présent au cœur du conjoint, évidemment, après la mort. Je pense notamment à l'impératrice Zita, qui va être veuve 67 ans. Je passe, troisième point, la fidélité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la fidélité de l'amour dans les petites choses comme dans les grandes. Le conjoint est toujours le premier prochain, hein, le plus proche prochain, comme on dit. Je pense à cette anecdote, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais je pense à Chiara et Enrico Petrillo, donc le couple vient de se marier et Chiara essaye de faire tout ce qu'il faut pour être une bonne épouse, et avec son amie Christiana, elle passe du temps au téléphone et celle-ci déniche un article de presse sur la manière de sanctifier le mariage. Et elle lui dit « Tout ce qu'on fait par amour pour son époux est un don de soi-même plus important que 1000 prières. » Voilà une phrase que Chiara va essayer de mettre en pratique et qui correspond tout à fait à sa vision des choses. Fidélité dans le temps, donc je l'ai dit, la gratitude, hein, ce que dira aussi par exemple la reine Fabiola de son mari après sa mort, c'est magnifique. Je voudrais juste vous en lire un tout petit passage. Voilà, elle dit je l'ai regardé intensément à chaque moment car on ne se lasse jamais de contempler celui qu'on aime. Son amour inépuisable coulait de source et engendrait le bonheur autour de lui et en lui-même. Mon mari m'a fait boire à cette source et elle continue à désaltérer chaque heure de ma vie. Voilà, et puis elle dit pour toutes ces raisons, je tiens à rendre cet hommage à mon bien-aimé qui reste pour moi un don unique aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Voilà, donc fidélité, je parlais des anniversaires de mariage qui étaient célébrés par Frédéric Ozanam avec ce bouquet de fleurs qu'il offre à sa femme tous les 23 du mois. Voilà, faire mémoire, c'est aussi quelque chose qui nourrit l'amour. Et je pense aussi par exemple à Félix Leuzer. Donc Félix Leuzer, c'est celui qui était agnostique, hein, vous vous souvenez, et qui va, après la mort d'Élisabeth, se convertir, il va même rentrer chez les dominicains, devenir prêtre. Elle avait prédit ça. Élisabeth lui avait dit, tu seras le père Leuzer. Il n'en croyait pas ses yeux. Et bien si, il va devenir dominicain, et alors qu'il est encore donc au couvent, eh bien, il va fêter de nouveau ses anniversaires de mariage tout seul, avec la photo de sa femme, il a été autorisé à garder une photo de sa femme. Voilà, donc c'est pour dire la fidélité. Un amour aussi plus grand que les obstacles et les souffrances. Dans l'adversité, il semble que leur vocation à ces couples a été contrariée. On peut même, voilà, la souffrance a été vraiment présente dans chacune de leurs vies. Je dirais même que les hommes ont été contrariés dans leur carrière, entre guillemets, et les femmes dans leur maternité, c'est-à-dire chacun dans leur vocation propre. Eh bien, malgré cela, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ils ont vécu ces souffrances ensemble. J'y reviendrai peut-être dans la partie sur la fécondité. En tout cas, un amour ancré dans la prière, seul ou pour, par exemple, Elisabeth Loser, puisque son mari ne partageait pas sa foi, ou à deux. Beaucoup, comme Charles et Zita, Baudouin et Fabiola, prient ensemble, vont à la messe ensemble, chaque jour, une fois jamais déconnectés du souci des autres et des pauvres. Hein. Ce qui me frappe, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du conjoint et l'amour du prochain sont indissociables. Il n'y a pas de rivalité entre ces deux amours, il n'y a pas de compartimentage ou de juxtaposition. C'est un seul amour. Et l'autre est perçu comme une aide pour se sanctifier. Pietro avait demandé à la Sainte Vierge, Pietro Molla, hein, qu'elle lui fasse rencontrer une femme qui soit sainte. Eh bien, Jeanne Beretta Molla est sainte aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un motif pour lui d'émerveillement quand il a accepté que son procès en béatification s'ouvre. L'empereur Charles disait à la veille de leur mariage, « Maintenant, nous devons nous aider l'un l'autre à aller au ciel. » Voilà. Je pense aussi à Chiara Petrillo qui dit à son mari, alors qu'elle pressent qu'elle va mourir, que le mariage est fait pour que les époux se sanctifient l'un l'autre. Hein. Et donc elle lui dira, un veuf peut se remarier puisque le but du mariage, c'est d'aller au ciel. Voilà, et puis je termine sur la fécondité au sens large, qui est à la fois l'ouverture à la vie, mais aussi la fécondité spirituelle. La procréation, on le sait, est l'un des buts du mariage, mais le but premier, c'est vraiment la sanctification des époux. L'amour de la vie, le don de la vie, la transmission de la vie est très présent au cœur de ces couples. Comme disait Pie XI, le premier devoir du mariage est d'être au service de la vie. Donc, comme je vous disais, toutes les femmes de ces sept couples ont été éprouvées dans leur maternité. Amélie Ozanam a fait deux fausses couches, elle a eu une petite fille et puis elle n'a pas pu avoir d'autres enfants par la suite. Elisabeth Loser a été malade très très vite après son voyage de noces et elle ne pourra pas avoir d'enfants. Que ce soit Maria Beltram, Zita, Diana, Chiara, chacune, lors de leur grossesse, ont eu des difficultés jusqu'à mettre leur vie en danger. Gianna et Chiara iront jusqu'à donner leur vie pour que leur enfant naisse sans qu'on te porte la main sur eux. Et puis la reine Fabiola, on le sait aussi, n'a pas pu avoir d'enfant. Et c'était un drame d'autant plus grave qu'elle était attendue, évidemment, pour donner un héritier à la couronne. Et ça a été vraiment un drame. Et en même temps, ils ont réussi, le roi Baudouin et la reine Fabiola, à transformer cette épreuve. Voilà ce que disait le roi Baudouin à un groupe d'enfants reçus au palais de Laeken. Vous savez que nous n'avons pas d'enfants. Nous nous sommes interrogés sur le sens de cette souffrance. Peu à peu, nous avons compris que notre cœur était plus libre pour aimer tous les enfants, absolument tous les enfants. Voilà, donc cette fécondité qui est vraiment présente au cœur de ces couples.
C'est un message pour les couples qui sont en désir d'enfant, qui se posent la question de l'intérêt de leur couple s'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, à être féconds physiquement. Il y a une autre fécondité.
Absolument. Je pense aussi... Bon, Charles et Zita ont eu 8 enfants, le dernier est né après la mort de l'empereur Charles, mais ils étaient aussi au service des autres, au service de leur peuple. Je pense à Elisabeth et Félix Loser, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils avaient une maison de campagne dans le Doubs, et ils en ont fait un havre d'accueil pour leur famille au sens large, et en particulier pour leurs neveux et nièces. Je pense aussi à Luigi et Maria, qui certes avaient des enfants, mais là aussi, ils ont voulu créer au sein de leur foyer un lieu chaleureux, un lieu harmonieux, un lieu lumineux pour ceux qui viendraient chez eux. Et puis, cette fécondité, elle va bien au-delà de leur propre foyer. J'ai parlé tout à l'heure de leur rayonnement, y compris auprès des pauvres. Les couples qui s'aiment rayonnent, hein. Leur amour est une source pour les autres. Les conjoints peuvent aimer plus largement, soit à travers la mission ou la fonction professionnelle du conjoint, soit ensemble dans une œuvre commune, soit personnellement, enrichis de l'amour de l'autre. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un amour conjugal qui prend sa source dans l'amour du couple et de l'Église. Hein, on ne se marie pas que pour soi, on se marie pour contribuer à la communauté qui nous accueille. Vous voyez, quand Jana était médecin, Jana Beretta Mola, et son mari, au tout début de leur rencontre, fait agrandir son dispensaire. Vous voyez, c'est une manière de contribuer aussi à la mission de l'autre. Quand la reine Fabiola va sur le terrain pour rencontrer les sujets, elle est très très attentive aux détresses et elle note sur un petit carnet tout ce qu'elle peut pour ne pas oublier les rencontres et promet toujours « j'en parlerai au roi ». Le roi Baudouin, justement, on a voulu lui faire un cadeau d'anniversaire très important, c'était je ne sais plus pour quelle occasion, mais et il a dit ben non, je préférais qu'on fasse que tout l'argent qui me serait destiné soit accordé pour une fondation pour les plus nécessiteux, voyez. Et il va s'investir personnellement avec la reine Fabiola contre la traite sexuelle pour que les personnes prostituées puissent s'en sortir. Je pense aussi à Amélie Ozanam. Donc, elle va non seulement donner son mari d'une certaine manière à ses élèves, hein, puisque son mari sera vraiment tout donné, il est professeur en Sorbonne, tout donner à ses élèves, et puis tout donner aux pauvres, hein, avec la Société de Saint-Vincent de Paul. Et elle va continuer son œuvre au-delà de sa mort, notamment elle aussi auprès de jeunes filles victimes de la prostitution. Voilà, donc juste simplement pour terminer. Je dirais que j'ai essayé de chercher quel était le secret de ces couples. Je crois que ils ont voulu simplement se laisser aimer par Dieu, devenir vraiment enfant de Dieu, se recevoir comme tel, se laisser aimer par Dieu pour pouvoir aimer l'autre, l'accueillir tel qu'il est. L'autre, le conjoint réel, non pas celui qu'on a imaginé, mais celui qui nous est donné. Et Dieu nous parle à travers l'autre, à travers les événements, les petites et grandes décisions, le quotidien, la réalité. Voilà, je pense qu'ils ont été attentifs à tous ces signes pour discerner à la volonté de Dieu et la suivre. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin de ces couples, en précisant simplement que voilà, je ne suis pas conseillère conjugale, je ne suis pas professeure, je ne suis pas théologienne ni philosophe. C'est vraiment moi, en tant que mère de famille, épouse et journaliste, que j'ai, voilà, que je parle, voilà, simplement.
Raphaël, nous avons reçu une question par SMS. Il s'agit de Marie qui écrit ceci. Merci beaucoup pour votre émission. Pensez-vous qu'à l'exemple de ces couples, malgré les grosses difficultés dans le couple, il faut toujours espérer?
Oui. Vous savez, ce couple, ce livre, j'ai mis en exergue, j'avais mis aux couples qui s'aiment, à tous ceux qui peinent, et parfois ce sont les mêmes. Évidemment, nous nous trouvons très, très, très petits face à ces couples qui nous montrent le chemin du ciel. Ils ont eu des épreuves très, très lourdes. Nous en avons aussi, chacun a son lot. L'espérance, c'est peut-être une grâce aussi à demander, parce que quand on est un peu au fond du trou, qu'on ne sait plus trop comment faire, c'est beau de croire, c'est beau d'espérer, mais parfois on n'a même plus la force. Peut-être demander simplement cette grâce d'espérer. Et puis, ces couples, en tout cas ceux qui sont, même ceux qui sont pas. Même ceux qui ne sont pas canonisés, on peut les prier, on peut leur demander de nous aider, de nous éclairer sur tel ou tel point de discernement, sur telle décision à prendre, sur une situation difficile ou douloureuse qu'on ne sait pas trop comment gérer. Moi, en tout cas, je les ai priés pour écrire ce livre et je continue. Voilà, je pense qu'ils peuvent nous aider, vraiment, je le crois. Et nous aider aussi, à espérer. Oui.
Alors, il y a un passage sur Elisabeth et Félix Le Sœur, où je trouve qu'Elisabeth a quand même une bonne dose d'humour. Elle est malade et donc vous écrivez qu'en 1908, Félix annonce à Elisabeth qu'il va recevoir la Légion d'honneur. Elle partage sa joie en lui offrant un poème. À Félix, elle écrit « Nous portons maintenant une croix tous les deux ». Donc je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour aussi dans cette phrase.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ça me fait plaisir que vous releviez ce petit passage parce que moi, j'ai été aussi très, très touchée, en fait, parce que le poème est long, hein, mais je n'ai pris que cette phrase. Je ne suis pas sûre que Félix l'ait comprise, même, parce que, évidemment, Félix, il bombe le torse, il reçoit la Légion d'honneur. Bon, c'était un homme très cultivé, très, très intéressant, intellectuellement très, très fort, etc. Donc c'était tout à fait mérité, je ne dis pas ça. Mais elle, sa croix, c'est la croix qu'elle porte tous les jours, c'est la maladie. Hein, elle est atteinte d'une maladie du foie qui va la fatiguer énormément et puis qui va être très, très douloureuse à la fin de sa vie. Et comme vous dites, elle a cet humour, elle est très, très étonnante, cette femme, parce que, si je remets aussi dans le contexte, donc ils ont une vie très mondaine, et elle, à partir du moment où elle va reprendre sa vie spirituelle, elle ne va rien laisser paraître. Son mari sait qu'elle est chrétienne et elle ne le cachera pas. Mais néanmoins, elle va tout faire pour faire honneur à son mari. Il est mondain, eh bien, elle sera pétillante et joyeuse dans les réceptions. Elle va faire très attention à sa tenue parce que lui, il est très sensible. Voilà, donc elle va aimer son mari de la manière dont il aime être aimé. Ça, c'est magnifique. Et vous avez raison, elle le fera aussi avec humour, malgré les grandes souffrances qu'elle va endurer pour lui. Elle va prier toute sa vie pour que son mari se convertisse. Elle va se donner totalement au Christ pour cette cause, j'allais dire, et elle ne le verra pas de son vivant, mais c'est très très beau, je ne vais pas raconter toute la manière dont ça s'est fait, mais Félix va se convertir après sa mort.
Alors, Marie a renvoyé un SMS pour dire qu'elle va suivre le conseil de prier ses couples.
Voilà, qu'elle choisisse peut-être celui qui lui... Peut-être celui qui lui parle le plus, celui qu'elle lui semble le plus proche. Parfois, voilà, je me rends compte que l'avantage de ces 7 couples, c'est qu'on peut se sentir plus proche de l'un ou de l'autre et vraiment les invoquer pour être une aide à ses côtés.
Alors, également dans l'épreuve de... des problèmes dans la maternité, il y a Chiara... qui subit la pression des médecins pour qu'elle avorte, parce que on est en train de lui dire que son enfant handicapé n'est pas vraiment un être humain, donc c'est très dur, c'est quelque
très
chose
dur.
De très dur à entendre, mais ce qui les fait d'autant plus souffrir, ce couple, Chiara et Enrico, c'est que leur famille pense la même chose.
Et oui, ça c'est parfois ça peut être nos amis, nos plus proches peuvent aussi nous décevoir. C'est quelque chose de difficile, hein, particulièrement dans des épreuves comme celle-ci. J'ai pas plus de détails sur ce qui s'est passé vraiment, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans chacune de nos vies. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on serait aidé par nos plus proches et puis parfois c'est pas ceux qui nous aident. Et puis d'autres amis se révèlent, au contraire, des gens qu'on n'avait pas imaginés et puis qui vont se révéler une présence à vos côtés, providentiellement. Je crois que le Seigneur met providentiellement à côté de nous des appuis. Mais ça a dû être effectivement très difficile. Et ce que je trouve très très beau, c'est que Chiara ne savait même pas au début si son mari la suivrait. Pour elle, il n'était pas question évidemment de porter atteinte à son enfant, mais elle, voilà, elle se disait, mais est-ce que Enrico va continuer de m'aimer? Est-ce qu'il y a de magnifique, et va être comme moi, va accompagner cet enfant? Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il lui dit, écoute, nous l'accompagnerons jusqu'à ce que, autant que nous pouvons. Enfin, c'est magnifique. Et donc, ils vont se retrouver l'un l'autre plus fort avec par ce chemin qui est un chemin extrêmement difficile et lourd et en même temps magnifique. Il dira que ça a été finalement une grâce. Enfin, je veux pas dénaturer ce qu'il dit, mais voilà, il dira, elle a ouvert nos cœurs, cette petite fille, hein, je pense à cette petite fille, elle a ouvert nos cœurs, la porte s'est ouverte et la grâce est entrée, le vrai amour, le vrai sens de la vie, l'éternité.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Simon. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en conclusion?
Eh bien, non, je vous remercie vraiment de m'avoir permis de parler de ces couples. Voilà, ben je m'adresse vraiment à travers cette émission, comme à travers ce livre, à tous les couples qui s'aiment et à ceux qui peinent, car parfois ce sont les mêmes.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël, et puis à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.